Chapitre 8. Les bergers allemands étaient bien dressés, mais la violence des détonations à l'intérieur de l'habitacle les fit aboyer furieusement. Gavin ne put que compatir, car il avait l'impression étrange d'avoir reçu une paire de gifles à la volée tant le vacarme était étourdissant. Il questionna Travis en criant d'une voix qui lui paraissait venir de très loin, et le garçonnet lui répondit sur le même mode que tout allait bien, aussitôt imité par Jesse. À présent que l'hélicoptère ne les survolait plus, les arbres paraissaient pétrifiés. Apercevant un espace suffisamment large entre deux troncs, Gavin braqua en direction d'un talus herbeux et quitta le lit du torrent pour rejoindre le sol rocailleux du canyon. À une cinquantaine de mètres se dressait un pick-up énorme, comme il n'en avait jamais vu. En s'approchant à vive allure, il distingua le mot « Ford » en gros caractères au niveau de la calandre. Si le véhicule avait transporté trois personnes, le dernier serait resté à bord et Gavin prenait un risque en s'arrêtant. Mais il eut la conviction que le véhicule était vide en ne distinguant aucune silhouette à l'intérieur. Il freina à hauteur de l'engin, ouvrit sa portière à la volée, son Springfield 45 au point, et vida son chargeur sur les deux pneus arrière droits, les détonations allumant des reflets verts sur la carrosserie rutilante à la façon d'une aurore boréale sauvage. Il se débarrassa du chargeur vide, en glissa un autre dans la crosse du pistolet, claqua sa portière en reprenant place derrière le volant, remisa dans son étui le Springfield encore tiède et démarra sur les chapeaux de roue en direction de l'est. Les tueurs privés de leurs moyens de locomotion ne présentaient plus de danger immédiat, mais l'hélicoptère était toujours là. Gavin, cherchant des yeux une issue entre les arbres, aperçut une trouée derrière laquelle un éboulis permettait de grimper jusqu'au sommet du canyon. Il traversa le torrent, fit vrombir le moteur et partit à l'assaut de la pente. La terre avait été ramollie par les pluies récentes et il laissa dans son sillage deux traînées boueuses. Parvenu à la crête, il vit l'hélicoptère se précipiter dans sa direction. Il s'agissait d'un appareil civil capable de transporter une demi-douzaine de passagers, en plus de l'équipage, à moins d'avoir été adapté en prévision de missions spécifiques. Aucune initiale associée à une agence fédérale n'ornait le flanc de l'hélicoptère dans le champ verdâtre de ses jumelles. Le pilote pouvait aussi bien être un ancien militaire qu'un pilote civil sans expérience de la guerre. Gavin crut deviner qu'il s'agissait de la seconde hypothèse, en voyant l'appareil survoler le 4x4 à moins de 15 mètres dans l'espoir vain de l'intimider. À défaut d'avoir appartenu à l'armée, sans doute le pilote et le copilote étaient-ils spécialisés dans les recherches aériennes. Si le second était un tireur d'élite, ou bien s'il y en avait un à bord, ce vol en rase-motte pouvait être une façon d'immobiliser le 4x4 en détruisant son moteur, sans risquer de tuer accidentellement l'un des passagers. Les ennemis de Jane seraient trop heureux de prendre Gavin et Jesse vivants afin de les interroger. Quant à Travis, il était impératif de l'épargner. Ou alors le pilote cherchait à effrayer Gavin en multipliant les manœuvres dangereuses, à la façon d'un matador agitant une cape rouge devant le museau du taureau, histoire de le retarder suffisamment pour laisser le temps à l'équipe au sol de sortir à son tour du canyon. L'hélicoptère s'éloigna dans la nuit en direction de l'est, dessina une boucle par le sud et revint au-dessus de sa proie. Comprenant que l'appareil volait encore plus bas que la fois précédente, au risque d'effleurer le toit du Land Rover, Gavin appuya de toutes ses forces sur la pédale de frein. D'un coup d'œil dans le rétroviseur, il vit Jesse sauter à terre, refermer précipitamment le haillon arrière et s'accroupir près du pare-choc. Des tourbillons de poussière fantomatique enveloppèrent le 4x4 avant de s'éloigner en dansant dans le sillage de l'hélicoptère. Au passage, les turbulences provoquées par les pales firent trembler le rover sur ses pneus. Jesse en profita pour tirer à trois reprises sur l'appareil, à l'aide du fusil avant de viser longuement le rotor. Contrairement à ce que l'on voit dans les films, l'appareil n'explosa pas en vol. Mais un bruit métallique inquiétant apporta la preuve à la jeune femme qu'elle avait fait mouche. Le pilote s'éloigna du canyon en direction du sud, et l'appareil prit de l'altitude en faisant une embardée. Jesse ouvrit la portière avant droite et grimpa dans le Land Rover. Elle n'avait pas encore refermé la portière que Gavin démarrait dans la direction prise par l'hélicoptère. Il entendait le suivre afin de savoir s'il était gravement touché. La cartouche de chevrotine tirée à bout portant avait manifestement causé des dégâts importants car le rotor eut dératé. Le pilote tenta d'atterrir, mais il se trouvait à une quinzaine de mètres du sol lorsque les pales se bloquèrent. Privé de son moteur principal, l'appareil chuta lourdement en brisant l'un de ses patins et il s'affala du côté droit, maintenu de guingois par les pales. Gavin tendit ses jumelles à Jessie. Il alluma les phares et le paysage désertique jaillit de l'obscurité. Travis se releva et s'installa tant bien que mal sur la banquette en accrochant sa ceinture, conformément aux instructions de Jessie, gêné par les chiens qui lui léchaient les mains et le visage avec excitation. Gavin contourna l'hélicoptère de loin, au cas où l'un de ses occupants aurait voulu leur tirer dessus. Dans le faisceau des phares, se dessina la silhouette d'un homme à genoux. Son compagnon, debout dans le cockpit éventré, s'apprêtait à sauter à terre. Le contour des collines était plus net à la lumière des phares que dans les jumelles à infrarouge. Gavin s'orienta du mieux qu'il le pouvait, en se fiant aux indications de la boussole, et se dirigea vers le sud-ouest à travers les broussailles, plus vite qu'il ne roulait quelques minutes plus tôt lorsque son monde était vert. Il fut soudain pris de tremblement. La crise, pas assez violente pour qu'il claque des dents, ne dura que quelques instants. Il se tourna vers sa femme qui devait être aussi choquée que lui. « L'Afghanistan se trouve à l'autre bout du monde, mais je crois bien que je me sentais mieux là-bas. »